penser et dire sa foi. Une émission proposée par Jean-Michel Poirier. Penser et dire sa foi. Une émission en dialogue animée par des enseignants et des étudiants de l'IURP à Toulouse.
Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Sœur Louisa Madala qui est enseignante à l'IURP ou l'IURP et qui en est la directrice du cycle de sciences religieuses. Alors Sœur Louisa Madala, vous êtes exégète et vous venez de soutenir votre thèse de doctorat sur ce personnage du quatrième, enfin particulièrement mis en relief dans le quatrième évangile, qui est donc l'un des douze, Thomas. Et alors justement, on l'appelle Thomas Didyme dans le quatrième évangile. Qu'est-ce que ça veut dire, Didyme ?
Oui, effectivement, dans le quatrième évangile, à savoir l'évangile de Jean, il est appelé Thomas Didyme. Et c'est uniquement dans cet évangile, hein, parce que, comme on l'évoquait dans la précédente émission, dans les évangiles dits synoptiques, on n'a que le nom Thomas. Or, Didyme, c'est un mot grec, et même un nom grec, qui signifie jumeau. Donc, de fait, Thomas dit le jumeau. Et même Thomas lui-même, le nom de Thomas lui-même, renvoie à la gemellité, mais dans en langue plutôt sémitique. Voilà, et Didyme, c'est en langue grecque. Quoi qu'il en soit, ce nom et ce personnage renvoient à la gemellité. D'où la question que j'entends d'ailleurs souvent.
Oui, de qui est-il le jumeau ?
De qui est-il le jumeau ? Voilà, quand j'ai dit je travaille sur ce personnage, alors plus d'une fois, les personnes me disent « Ah, alors de qui est-il le jumeau ?» Voilà, donc c'est une grande question. On peut dire qu'au long des siècles, on s'est interrogé, on a donné des réponses différentes à cette question. Car dans les premiers siècles, dans une région bien déterminée, qui est la Syrie orientale, donc une région qui est à l'est de l'Euphrate, si vous voulez aujourd'hui, hein, vers la Turquie, mais à l'est de l'Euphrate. Bien, dans cette région, il y a eu pendant 3-4 siècles, donc je dirais jusqu'au 5e siècle de notre ère, vraiment ça s'est développé une très grande vénération envers la figure de Thomas. Une très grande vénération, surtout à Édesse. Et dans cette région, donc, il y a eu aussi une littérature qui a fleuri autour de Thomas, une littérature qu'on appelle apocryphe, au sens qu'une littérature qui n'est pas rentrée ni dans les canons bibliques, ni dans la littérature, disons, ecclésiastique, mais la tradition populaire, qui arrive même jusqu'à nous, a bien largement puisé dans cette littérature. Or, dans cette littérature, eh bien, on a trouvé une réponse à la question de qui est-il le jumeau, et on a dit c'est le jumeau du Seigneur. Attention, non pas le jumeau du Seigneur dans un sens biologique.
Oui, non pas le fils de Marie.
Exactement, non, absolument pas ça, mais dans un sens qu'on peut dire spirituel, au sens où le disciple dont Thomas est tellement proche de Jésus, est tellement dans l'intimité avec Jésus, qu'il arrive à l'imiter et faire ce que fait Jésus. Il lui ressemble donc tellement comme si c'était un jumeau. Donc Thomas, dans cette littérature, notamment les actes de Thomas, justement, on voit que Thomas, d'abord, est charpentier, comme Jésus était charpentier, d'où, entre parenthèses, le fait qu'il soit, et encore aujourd'hui, reconnu comme le patron des architectes. Et peut-être vous-même, vous souvenez, vous avez, il me semble, quelque chose à dire sur ça.
Oui, parce qu'effectivement, j'ai eu la chance de voir à Paris, le musée, autrefois, ça s'appelle la Cité de l'architecture aujourd'hui, le musée des monuments français autrefois, et actuellement sont exposées les 12 statues de Viollet-le-Duc, que Viollet-le-Duc avait dessinées et fait couler, qui était placé au sommet de Notre-Dame, sur la flèche. Et donc, pendant toute la période de reconstruction de Notre-Dame, elles sont exposées dans ce musée. Et on voit effectivement le personnage de Thomas avec une règle.
C'est la règle parce qu'il est architecte. Donc vous voyez que cette littérature, tout en étant apocryphe, a arrosé largement tout l'Occident, juste à arriver effectivement à cette statuaire. Je pense à la cathédrale d'Amiens aussi, et il est représenté Thomas avec une équerre. Parce que, donc patron des architectes, mais à la base charpentier, comme Jésus était charpentier, il a vécu donc comme Jésus, très pauvrement, il a été itinérant comme Jésus, il a été... tout ce que Jésus a fait jusqu'au point de Thomas mourir martyr. Mais comment mourir martyr? Eh bien, comme il avait fait dans ses pérégrinations en Inde, puisque là aussi, il y a tout le volet de Thomas, disons, en Inde, eh bien, il avait fait beaucoup de conversions et le roi de ce royaume où il était, pas content du tout, demande qu'on sorte de la ville Thomas, qu'on l'amène sur une montagne, et puis demande à des soldats qui étaient là avec des lances de le mettre à mort. Et les soldats avec ces lances vont tuer Thomas. Et là, il y a aussi un rappel du fait que donc, Thomas meurt avec la transfixion d'une lance. Évidemment, c'est un rappel de Jésus qui, dans l'évangile de Jean, une lance aura le côté transpercé par la lance d'un des soldats. Hein, voyez. Donc, il y a la gemellité là, est entendue comme une imitation que je dirais presque une christoconformation, je dirais, ou une christification, hein, devenir vraiment comme une identification. Bien sûr, là, il y a eu des dangers, et c'est peut-être pour ça que ce volet-là n'a pas été exploité dans l'Église qui est la nôtre, l'Église, disons, officielle, parce que c'est vrai qu'il y a un danger à explorer la gemellité dans ce sens, car il peut amener vers, et s'amener, un certain courant, aller vers une identification qui devient une fusion de type gnostique, si vous voulez, et là, on est vraiment hors de l'Église. Mais à la base, il y a le fait de vivre radicalement comme Jésus a vécu radicalement. Donc voilà, là, on est en Syrie pendant quatre ou cinq siècles. Voilà comment on a compris la gemellité de Jésus. Ensuite, cela, je ne dirais pas ensuite, ça a été abandonné, cette idée n'a pas été exploitée, au moins pendant le premier millénaire. Peut-être en réaction
à ces excès,
ces excès, effectivement. Et il faut attendre surtout, je dirais, l'époque plutôt contemporaine pour qu'on reprenne vraiment cette idée en se disant, mais comment on peut entendre cette gemellité? Et il y a par exemple tel ou tel bibliste, hein, enseignant de Bible, qui a lu cette figure un peu comme... la figure du Janus. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais là aussi, on peut taper facilement sur son navigateur Janus au Musée Vatican. Mais au Musée Vatican, on a une statue de Janus, qui est un dieu romain à deux visages. À deux visages qui sont exactement les mêmes, mais un regarde vers l'avant, un regarde vers l'arrière. D'ailleurs, Janus, le mot janvier, qui est la porte et qui ouvre vers l'année nouvelle et ferme l'année précédente et vient de là. Or, pourquoi Janus? Pourquoi cette gemellité de Thomas entendue dans ce sens? Parce qu'il est à la frontière, effectivement, Thomas, entre le croyant témoin direct, c'est bien un des disciples qui est témoin direct sur laquelle repose notre foi, et en même temps, Jésus lui dit « heureux ». Ceux qui verront sans avoir cru. Donc, ouvre vers les générations à venir, vers nous.
Ceux qui croiront sans avoir vu.
Croiront sans avoir vu, merci, oui. Et donc, il ouvre, il est à la frontière, au fond, entre les deux. Entre ceux qui ont vécu le temps avec Jésus de Nazareth, voilà, et qui l'ont connu, et qui témoignent de cela, et puis tous les autres. Voilà. Donc, c'est une autre façon de comprendre la gemellité.
Alors, dans l'évangile de Jean, il y a d'autres personnages qui sont des types aussi, alors de foi, ou de difficultés à croire, ou de relations avec Jésus plus ou moins proches. Il y a le disciple bien-aimé, oui. L'anonyme, et puis il y a ce personnage de Pierre. Alors, quel est le rapport entre Thomas et Pierre? Est-ce qu'il y a une relation entre les deux?
Eh bien, entre Thomas et Pierre, oui, je pense qu'il peut y avoir une relation. C'est quelque chose que j'ai travaillé au sens de la gemellité, mais attention, là aussi, au sens de plutôt d'un double, parce que le mot didyme, je veux dire d'abord double, double, mais au sens narratif, au sens que les deux figures peuvent être mises en parallèle et on peut effectivement, si on fait le parallèle, on voit pas mal de points communs. Tous les deux ont un nom double qui signifie quelque chose, pour Pierre, mais tout le monde le sait, Simon Pierre, la signification. Thomas, on vient d'en parler, tout le monde se présente comme des porte-parole, c'est du groupe, des disciples, parle en nous. Nous acquérons-nous, dit par exemple Pierre, et puis fait une belle confession de foi. Et puis Thomas parle aussi en nous. Voilà, donc tous les deux sont porte-parole, tous les deux font des confessions de foi importantes, mais une des grandes différences, c'est le fait que Thomas comprend que Jésus va mourir et l'accepte. Ça, c'est bien avant le récit de Pâques, c'est au chapitre 11 de l'Évangile de Jean, quand Thomas dit aux co-disciples, avançons pour mourir avec lui. Donc, il comprend et accepte que Jésus va mourir, contrairement à Pierre qui, lui, il comprend, mais il n'accepte pas. Parce qu'au moment de lavement des pieds, n'accepte pas que les pieds soient lavés. Or, le lavement des pieds, c'est un service, mais ce n'est pas que ça. C'est la préfiguration déjà de Jésus qui dépose sa vie et qui après la reprend, quoi. Et Pierre ne l'accepte pas.
Mais c'est assez surprenant ce que vous nous dites, parce que finalement, vous nous dites que Thomas est un petit peu un double positif de Pierre à ce moment-là.
À ce moment-là, oui, effectivement.
À ce moment-là.
Et il nous montre aussi par là, par rapport à Jésus, quel est le vrai disciple.
Alors, tout ça est bien passionnant, mais nous avons encore deux autres émissions pour approfondir ce personnage de Thomas. Donc, merci beaucoup, Sœur Louisa Madala. Je rappelle que les jeudis 25 et vendredi 26 mai, vous assurez une session de 2 jours à l'IERP, précisément sur Thomas le jumeau, un disciple, un Christ, dans l'Évangile de Saint Jean. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.